Bonjour, aujourd'hui, les flibustiers. Ils juraient par le diable et tuaient comme on se mouche. Ils avaient dans le sang et la mer et la mort et le goût des trésors. Robert Louis Stevenson, L'île au trésor. ans d'histoire. Il s'appelait Francis Drake, John Rackham, Henry Morgan, Barbe Noire, Montbard l'Exterminateur, Jean-François Nau, dit l'Olonois, Vent en panne ou Bras de fer. Pendant deux siècles, entre la Floride et le Venezuela, les flibustiers ont écrit quelques-unes des pages les plus sanglantes de l'histoire de la mer. Travaillant pour leur compte ou comme corsaires au service des rois de France ou d'Angleterre, ils ont écumé les Caraïbes avant de disparaître il y a 300 ans, en laissant derrière eux le souvenir d'aventures qui nous fascinent encore. Mais au lieu d'inspirer la terreur comme ils le faisaient au XVIe et au XVIIe siècle, les flibustiers nous font aujourd'hui sourire comme si, avec le temps, on avait oublié la violence et la cupidité de ces forbans des mers.
Nous sommes en 1698. La Licorne, fier vaisseau de la flotte de Louis XIV, a quitté l'île de Saint-Domingue dans les Antilles et fait voile vers l'Europe. Ils sont partis depuis deux jours par bonne brise. La Licorne vogue grand largue lorsque de la hune tombe un cri.
Une voile à bâbord !
Le pavillon noir ! Les flibustiers !
Prends le bas de combat ! Tout le monde sur le pont paré à virer !
Allons-y !
La Licorne serre le vent pour échapper aux frères de la côte. Les flibustiers sont prêts pour l'abordage. Les armes sont sorties. Les grappins sont lancés. La lutte à mort commence.
Regarde-moi, je suis Rackham le Rouge.
Et moi, le chevalier François de Haddock.
Patrick Villiers, bonjour.
Bonjour.
Alors, si les aventures de Rackham le Rouge vous font sourire aujourd'hui, comme tous les lecteurs de Tintin, alors ce n'était pas le cas, hein, vous le rappelez, il y a 300 ans, quand c'est ce flibustier qui a vraiment existé, écumé la mer des Caraïbes, vous le rappelez d'ailleurs dans la préface d'une histoire des flibustiers qui a été écrite il y a trois siècles déjà par l'un d'entre eux, Alexandre Olivier Exquemelin, un livre qui vient d'être réédité par les presses de l'Université de Paris-Sorbonne et qui reste un livre de référence pour des historiens comme vous.
Oui, en fait, ce livre, qui dans la première édition paraît en Hollande en 1678, a donné lieu immédiatement à quatre éditions espagnoles, anglaises et françaises. Et ensuite, tous les romanciers de tout poil l'ont recopié. Mais l'originalité de notre livre, c'est que Réal Ouellet et moi-même sommes les deux premiers à avoir véritablement essayé de chercher le mythe et la réalité derrière cette histoire.
Et là, il s'agit d'un témoin, il faut le rappeler. Exquemelin, c'est quelqu'un qui a écrit un livre qui se lit vraiment comme un roman, mais qui est tout à fait la réalité vue par un flibustier.
Alors, on a cru pendant très longtemps qu'Exquemelin n'avait jamais existé. Et c'est un historien hollandais qui, en 1930, a trouvé les premières traces, et puis depuis, d'historien en historien, on a approfondi et nous savons aujourd'hui qu'il a réellement existé. Il est parti de Honfleur à l'âge de 18 ans comme engagé, c'est-à-dire comme esclave blanc pour aller coloniser les Antilles. Et après de 3 ans de servitude aux Antilles, il va avoir l'espoir de s'enrichir en devenant flibustier.
Et il écrit donc cette histoire des aventuriers flibustiers. Alors flibustiers, pirates, corsaires, on mélange un peu tout. Est-ce que c'est la même chose ou qu'est-ce qui distingue le flibustier des pirates et des corsaires ?
Alors le flibustier, on pourrait dire d'une certaine manière que c'est un corsaire des Antilles. Avec cette différence que... À certains moments, il sort des cadres et il devient pirate. Alors, donc ça nous amène à redéfinir ce que c'est qu'un pirate. Donc le pirate, c'est le hors-la-loi, celui qui n'a ni foi ni loi, mais surtout, pour le juriste, c'est quelqu'un qui n'a pas de pavillon de nationalité. Ensuite, le corsaire, c'est quelqu'un qui, dans le cadre d'un État qui n'a pas d'armée, le roi ou l'État délègue à un armateur le droit d'armer un bateau et un équipage.
Donc, il donne
le corsaire,
une lettre de marque. Voilà. Au fond, c'est un mercenaire, le corsaire.
Non, dans la mesure où... Oui, si vous voulez, c'est un mercenaire, mais au sens noble du terme. Mmh. C'est-à-dire qu'il fait action de défense dans l'État... Mmh. Sous pavillon royal.
Et le flibustier, c'est un corsaire des Antilles, essentiellement. Alors, pourquoi ça apparaît aux Antilles et quand, hein? Parce que c'est une histoire très courte, en fait, on oublie celle des flibustiers, c'est 16e, 17e siècle. Alors, je suppose, puisque ça apparaît au début du 16e siècle, que c'est lié, bien sûr, à l'or et à l'argent des Espagnols dans le Nouveau Monde.
Oui, bien entendu. En fait, c'est lié à deux phénomènes. Premier phénomène, les Espagnols et les Portugais se sont partagés le Nouveau Monde, c'est le traité de Tordesillas, et ils en ont exclu la France et l'Angleterre. Au même moment, cet empire des mers est tellement vaste que les Portugais et les Espagnols ne peuvent pas le gérer. Alors, eh bien, ils vont abandonner un certain nombre d'îles. Et donc, les Espagnols, après avoir épuisé toutes les îles des Antilles des maigres quantités d'or et d'argent qu'ils avaient, vont... sur les grandes mines qu'ils découvrent, c'est-à-dire au Mexique et au Potosi. Et alors, paradoxalement, les Antilles vont devenir un lieu plus ou moins abandonné. Et dans cet espace de vide, les marginaux vont s'y engouffrer. Et ces marginaux vont ensuite être récupérés par le roi de France et le roi d'Angleterre. Et ça nous donnera donc Fleury, enfin des grands...
Oui, les premiers flibustiers, c'est des Anglais aussi, c'est Drake, c'est des Hollandais. Le mot d'ailleurs vient, je crois, du hollandais Vrijbiter, qui veut dire libre faiseur de butin. Alors, ces gens-là, on les appelle aussi les frères de la côte. Et pendant 200 ans, ils vont écumer la mer des Antilles.
Nous, les sous-signés, sommes des humains sans patrie, des hors-la-loi dans notre pays et des indésirables partout ailleurs. De désespoir, il nous faut tenter notre fortune en mer. Nous nous unissons donc fraternellement pour devenir ensemble des flibustiers et accomplir des actes de piraterie en haute mer. Étant pourchassés, nous pourchasserons.
Nous jurons !
Capitaine, de quel pays est-il?
Il arbore pavillon français, mais il faut s'attendre à tout dans ces eaux. N'importe quel bateau sur ces eaux peut être un bâtiment de pirates.
À l'abordage par bâbord, et que les canonniers bombardent à boulets rouges! Allez!
À mort croyant que m'importe la gloire, les lois du monde et qu'importe la mort. Sur l'océan, j'ai planté ma victoire et bois mon vin dans une coupe d'or. Vivre d'orgie est ma seule espérance, le seul bonheur que j'ai pu conquérir. Si sur les flots j'ai passé mon enfance, c'est sur les flots qu'un fort vent doit mourir. Peut-être un jour, par un coup de fortune, je saisirai l'or d'un beau galion. Riche à pouvoir vous acheter la lune, je m'en irai vers d'autres horizons. L'or respecté tout comme un gentilhomme, moi qui ne suis qu'un combat, qu'un bandit. Je pourrais comme le fils d'un roi, tout comme mourir peut-être dedans un bon lit.
Magnifique, femme gentille, sauter baiser, brûlant d'amour. Plaisir, bataille, vive la caille, je bois, je chante et je tue tour à tour.
Et c'était les Gabiers d'Artimon, Le Forban, une chanson de marin qu'aurait pu chanter les flibustiers des Antilles. D'où venaient d'ailleurs les gens qui composaient les équipages de flibustiers Patrick Villiers.
Pour l'essentiel, il venait d'Europe. Il venait d'Europe à deux titres. Soit, comme je l'ai dit à propos d'Excommelin, c'était des engagés. Alors, en fait, Anglais, Français et Hollandais avaient tendance à envoyer aux Antilles ce qu'on pourrait appeler les marginaux. Alors les Anglais les appelaient les dissenters. C'est donc les Anglais qui avaient le sort le plus affreux, puisque embarqués de force sur les navires de guerre anglais, ils étaient vendus aux Antilles ou en Virginie pour 9 ans. C'est ce qu'on appelait un traité d'engagé. Alors s'ils n'étaient pas morts au bout de 9 ans, ils recouvraient la liberté et devenaient à ce moment-là colons. Alors le système français et hollandais était beaucoup plus léger. Dans le cas français, c'était 3 ans, et puis à partir de 1572, ça sera 18 mois. Alors là, beaucoup se mettent à survivre et deviennent une main-d'œuvre acclimatée, parfaitement entraînée. Les métiers de la terre en faisaient véritablement des athlètes, et comme tous les gens de l'époque, sachant manier les armes.
Alors, il y avait de tout un peu dans cette société un peu particulière qui était les flibustiers. Ils étaient de toute origine sociale aussi, je crois, Patrick Villiers.
Alors, la première chose qu'il faut se souvenir, c'est que le voyage aux Antilles coûte une fortune. Et donc, aller aux Antilles, il faut trouver quelqu'un qui veut vous expédier. Alors, ça peut être le roi comme main d'œuvre, ça peut être les compagnies des Indes. Autrement, il faut trouver un marchand qui va vous vendre à l'arrivée. Donc, ça limite automatiquement le nombre de gens. Alors, leur origine sociale, ben justement, à cause de ce manque de fortune, on a deux grands groupes. Des petits seigneurs des Argentés, donc on trouvera Rosset, on trouvera Morgane, par exemple, et puis beaucoup de gens d'origine paysanne, mais aussi une petite classe moyenne, parce que justement, Excommelin n'est pas le seul à savoir lui réécrire.
Lui, il voulait être chirurgien.
Il le deviendra, voilà.
Et alors bon, on évoquait l'absence de patrie, alors, et on dit souvent c'est un peu des anarchistes, et d'ailleurs regardez, leur drapeau c'était le drapeau noir. Il paraît que c'est un mythe, Patrick Villiers, le drapeau noir,
alors,
en tout cas à l'époque de la flibuste.
Oui, pour moi, jusqu'à nouvelle preuve du contraire, je n'ai trouvé aucun document daté donnant le drapeau noir avant 1721. Et 1721, c'est la préface du livre de Daniel Johnson, Histoire des pirates, qui en fait est Daniel Defoe. Et la première page, il y a une femme tenant le drapeau noir. Mais autrement, si on prend les éditions d'Excommelin, si on prend tous les textes du XVIIe siècle, ils n'ont pas de drapeau noir parce qu'ils revendiquent le drapeau anglais rouge ou le drapeau français blanc.
Alors en revanche, c'est vrai qu'ils ont une patrie, c'est l'île de la Tortue. C'est vraiment le quartier général de la flibuste. Il faudra peut-être rappeler où elle se trouve, je crois que c'est au nord de l'actuel Haïti. Mais c'était vraiment l'île de la Tortue, c'est une île mythique de ce point de vue-là.
Oui, et en fait, ils ont trois lieux mythiques. L'île de la Tortue, qui se trouve exactement, comme vous le disiez, juste au nord d'Haïti. Ils ont au sud d'Haïti une île qui a un nom beaucoup moins romantique, l'île à vache, mais qui succède à l'île de la Tortue. Et puis, ils vont avoir la Jamaïque, puisque les Anglais ayant échoué à prendre Cuba, se réfugier à la Jamaïque. Et la Jamaïque va devenir le troisième grand lieu des flibustiers.
Et alors, des flibustiers qui sont des hors-la-loi et qui n'obéissent à aucune autre règle que celle qu'ils se sont eux-mêmes fixée.
First, we pledge ourselves to be bound together as brothers in a life and death friendship.
Premièrement, nous jurons d'être liés comme des frères, à la vie, à la mort. Nous partagerons butins et problèmes. Deuxièmement, tous les biens qui entreront en notre possession seront partagés équitablement. Le reste sera distribué selon les blessures de chacun. La perte d'un bras droit, 600 pièces d'or. D'un bras gauche, 500. La perte d'une jambe droite, 500. D'une jambe gauche, 400. Ces articles entrent en vigueur le 20 juin 1687. Vous connaissez le règlement. Le monde est contre nous, nous le défions. Que ceux qui approuvent ces règles lèvent la main.
Et c'est un extrait d'un film de pirates que vous connaissez bien, Captain Blood, Patrick Villiers. Alors ça, c'est extraordinaire, ce qu'on vient d'entendre, c'est la sécurité sociale, l'invention en quelque sorte de la sécurité sociale par les flibustiers, parce que cette espèce de manière d'indemniser les accidents du travail, on pourrait appeler ça comme ça, eh bien, elle est vraiment existée dans le livre d'Excommelin. C'est vraiment ce qui se passait entre les flibustiers.
Tout à fait. Alors, dans le livre d'Exmelin, qui est beaucoup, les formules sont beaucoup plus intéressantes que dans le film de Capitaine Blood, parce que dans Capitaine Blood, on fait référence à l'or. Or, de l'or, il n'y en a pas aux Antilles. Ce que l'on a, c'est de l'argent. Car les mines espagnoles sont des mines d'argent. D'ailleurs, en français, on dit l'argent, on dit pas l'or. Donc, l'argent ruisselle, effectivement. Moi, je l'ai trouvé par tonne. Donc, ils ramènent des trésors, etc. Mais la règle du partage, c'est la règle corsaire. C'est la règle corsaire depuis le milieu du XVe siècle. Les corsaires partageaient avec l'armateur, mais il était bien défini qu'au cours du combat, et les blessés et les morts et les veuves devaient être indemnisés. Donc en fait, on reprend fidèlement, en le transposant aux Antilles, la règle des corsaires.
C'est une société quand même assez extraordinaire, fraternelle, on le voit bien, il y a le partage du butin. Je crois même que les matelots désignaient eux-mêmes leur capitaine, Patrick Villiers.
Oui, alors c'est une société qui est fraternelle à deux niveaux. D'abord, c'est une société qui comporte beaucoup de marins, puisqu'on attaque par terre et par mer. Et donc, vous savez qu'à bord des marins, les gens sont divisés en deux, tribord et bâbord. Et donc, les deux marins qui sont liés l'un à l'autre s'appellent des matelots. On dit être amelotés. Eh bien, les frères de la côte sont tous amelotés. Et quand l'un meurt, ses richesses vont aux survivants, femmes compris. Donc là, on a bien une société qui reprend les traditions marines et maritimes et une solution de solidarité. L'autre grande idée, c'est que effectivement, il faut se battre. Pourquoi? Comment? Et donc, on se retrouve avec des objectifs. L'or n'est pas toujours au rendez-vous, puisque on le voit bien dans le partage, il y a les esclaves. Et les esclaves, nous en reparlerons, ça veut dire se reconvertir.
Alors, il y a aussi, parce que tout ça, c'est très joli, c'est une société idyllique que l'on décrit, mais il y a aussi, et ça, on la connaît, enfin, on l'a vu dans tous les films sur les pirates, etc., mais c'est tout à fait authentique, c'est l'extraordinaire violence des combats qui se mènent de ces hommes. Il y a par exemple Jean-François Nau, l'Olonnois, parce qu'il était originaire des Sables d'Olonne, dont les prisonniers préféraient, je crois, se suicider que d'être torturés par lui. Torturer, d'ailleurs, le mot qu'utilise Exquemelin, c'est donner la gêne.
Complètement. Alors, vous savez, il faut prendre un ensemble de gravures qui est très, très célèbre. C'est les gravures de Callot, qui s'appellent Les Misères de la Guerre, et notamment qui ont été faites pendant le siège de La Rochelle en 1630. Au XVIIe siècle, on a un siècle d'une violence extraordinaire. Donc, la notion de vie et de mort ne préoccupe pas grand monde. Les droits de l'homme, c'est quasiment inexistant. Les droits des prisonniers, pratiquement non plus. C'est ça qu'il faut bien se voir, c'est que nos flibustiers sont toujours en train d'attaquer les Espagnols. Que vont-ils en faire? Eh bien, très souvent, on voit que on ne garde pas de prisonniers. On en fait
oui,
pas.
Mais c'est gentil, on peut les balancer par-dessus bord. Mais là, il y a vraiment du sadisme. Il y a un capitaine, je crois, qui coupait les lèvres de ses prisonniers pour les faire cuire et les leur faire manger. Ils étaient bouillis. Enfin, c'était vraiment abominable.
Alors, il y a l'abominable.
Sans parler du sort des femmes, qui évidemment étaient.
Ah ouais, Exmelin, une formule très très jolie. Il dit les femmes, on ne leur prie pas leur richesse, on ne prie que ce qu'elles pouvaient donner.
Oui.
Donc, enfin, on a bien compris.
C'était affreux. Et alors, il y a une chose qu'on oublie aussi, Patrick Villiers, c'est qu'on pense toujours à des batailles navales. Or, il se trouve que la plupart des combats, ou beaucoup en tout cas des combats menés par les flibustiers, ont été menés à terre. C'était des soldats, ils avaient vraiment une infanterie. Il y a la mise à sac, par exemple, de Maracaibo par Nau en 1667, la prise de Panama par Morgan en 1671, la prise de Veracruz par Gramont en 1683. Puis alors, vraiment, ça a été le record absolu. En 1697, il y a une escadre française de pointistes associée à des flibustiers qui sont donc des corsaires au service de la France, et alors qui s'emparent justement de Carthagène, butin 8 millions de livres en lingots d'or et barres d'argent. Je crois que c'est le plus gros butin qu'aient jamais fait les flibustiers.
Oui, c'est même plus que ça, parce que Pointis va barboter la part des flibustiers, va entrer en France, et Louis XIV va ordonner qu'on indemnise les flibustiers volés par Pointis. Donc, il va leur faire reverser 4 millions de livres. Mais en même temps, les flibustiers étaient restés. Ils avaient mis un deuxième pillage de Carthagène. Donc, le total doit faire entre 15 et 20 millions de livres. C'est-à-dire deux fois le budget annuel de la marine de guerre à cette époque-là.
Par sorcellerie, vous avez réussi à pénétrer dans Carthagène, à capturer sa garnison, à rançonner le gouverneur de 30 000 ducats. Vous avez aussi attaqué le galion Madre Dolores et volé 8 000 livres d'or, 30 coffrets de pièces d'argent et 1 770 fûts de vin. En résumé, vous avez pillé 7 villes de l'Empire et détruit 47 vaisseaux de Sa Majesté. Vous serez remis aux autorités militaires qui vous enchaîneront dans une galère pour le restant de vos jours.
Et c'était un extrait de L'Aigle des Mers, la condamnation d'un flibustier à la fin du XVIIe siècle. C'est l'époque où s'arrête la flibus. Qu'est-ce qui s'est passé pour que brusquement, petit à petit, à partir du début du XVIIIe siècle, on les voit disparaître progressivement, Patrick Villiers?
Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, première chose, il y a un mythe, c'est que la marine espagnole n'existait pas. C'est parce que la marine espagnole et ses galions étaient prodigieusement bien organisés que les flibustiers ont été obligés d'attaquer à terre. C'est parce qu'en fait, en mer, on n'arrivait plus à prendre les galions espagnols. Donc, on se reconvertit pour attaquer à terre. Et progressivement, les villes espagnoles devront se protéger. La deuxième chose, c'est que nos flibustiers ont un art extraordinaire, c'est l'art de manier le fusil flibustier. Tous les témoins sont unanimes, ils déciment les garnisons espagnoles et leur feu foudroie, et c'est de la sorcellerie, c'est ce qu'on a vu dans l'extrait précédent. Les Espagnols sont stupéfaits par la qualité du feu des flibustiers. Mais alors, le grand changement, nous l'avons vu, c'est qu'en 1697, la flibus française est associée à l'armée royale. Or, en 1702, la France se réconcilie avec l'Espagne. C'est la guerre de succession d'Espagne. Et le paradoxe, c'est que les flibustiers vont devenir maintenant les protecteurs de l'Espagne. Ducasse, qui conduisait la flibuste, va devenir amiral chargé de protéger les galions d'Espagne. Et entre-temps, comme Morgan, il s'est reconverti comme gouverneur et comme gérant de plantations sucrières. Donc, nos flibustiers se sont reconvertis. Ils ont pris leur retraite avec leurs esclaves. Et donc, les grands flibustiers sont devenus de grands planteurs. Ou sont morts.
Mais Morgan, par exemple, on n'en a pas parlé, mais c'est peut-être le plus illustre de tous, avec Barbe Noire, Morgan qui devient gouverneur de la Jamaïque.
Oui, c'est un beau pied de nez. Mais Morgan appartient à la petite noblesse, dont je vous le disais. Son oncle était sous-gouverneur des Antilles. Il épouse la fille de son oncle, donc sa cousine Germaine, sa belle-sœur est mariée au capitaine de l'armée de la Jamaïque. Donc en fait, ils ne sont pas aussi marginaux qu'on pourrait le croire.
Alors il y en a en revanche qui ont un sort beaucoup plus terrible, vous me direz, compte tenu de celui qui faisait subir à leurs victimes. Je pense à William Kidd, qui a été condamné. Alors là, le supplice de William Kidd à Londres, ça a été quelque chose de phénoménal, Patrick Villiers.
Complètement. Mais alors William Kidd, lui, c'est un vrai corsaire qui a eu le malheur d'interférer dans les affaires de la couronne, qui va organiser un procès et on va le transformer en vrai faux pirate et il faut le condamner. Alors non seulement le condamne à mort, mais ensuite son corps est enduit de goudron, enfermé dans une cage de fer qui pendant 30 ans va se balancer à l'entrée de la Tamise et rappeler à tout le monde les peines auxquelles les pirates étaient soumis.
Il y avait des femmes aussi parmi les pirates.
Oui, alors ça fait partie du mythe, parce qu'on en a très très peu. Alors moi, évidemment, les deux plus célèbres, c'est évidemment Margaret Red et Mary Red. Bon, mais elles étaient avec Rackham le Noir cette fois-ci. Mais Rackham le Noir, c'est un minable. Il est en 1720, il a un bateau avec 15 hommes à bord, ils se font piquer par une corvette royale, ils sont sous comme des cochons, et Margaret Red dira au procès de Rackham, tu t'es battu, tu seras pendu comme tu t'es battu, sous. Donc c'est une piraterie misérable parce que la guerre est finie. Nous sommes en 1717 et la guerre est finie.
Et une piraterie qui va terminer sur d'autres mers.
Tout cela est à vous, messieurs. Jusqu'au dernier doublon. Vous vous êtes battus comme des lions pour le gagner. Monsieur Glasspool va le diviser en parts égales entre nous tous. Vous voilà riche maintenant. Et libre d'aller où bon vous semble. Qui sait, peut-être acheter un cottage aux Bermudes et boire de la camomille sur la véranda. Mais nous pourrions aussi poursuivre notre destin. Rester unis et suivre les alizés jusqu'aux côtes de Madagascar, dont les eaux sont le paradis des pirates. Alors, voulez-vous faire grossir cette montagne d'or?
Et c'est en effet à Madagascar, complètement aux antipodes, Patrick Villiers, que va se terminer cette aventure de la flibuste.
Alors, cette aventure de la flibuste à Libertalia, elle est parfaitement logique.
Libertalia, c'est une ville, il faut le rappeler, à Madagascar, qui était une espèce d'utopie.
Complètement. Alors, en fait, ce qui se passe, on l'a vu en parlant de de nos pirates précédents, donc Rackham et tous les autres, les Antilles sont devenues terre de normalité, c'est le lieu des plantations. Maintenant, les esclaves ne sont plus blancs mais noirs, et le sucre est la grande richesse, et il n'y a plus de place pour les marginaux, donc frégate anglaise, frégate espagnole, frégate française, éliminent les pirates. Et donc les pirates changent d'océan, et ils vont se réfugier à Madagascar, et là, ils vont tenter de créer le mythe de Libertalia. Alors le problème du mythe de Libertalia, c'est que Libertalia a bien existé, mais celui qui va la diriger est un authentique dictateur et qui a des aspects complètement libertaires et fascinants de monde à l'envers. Alors là, les littéraires s'en sont donnés à cœur joie, de contre-société, etc. Mais en même temps, on voit bien qu'il pète les plombs et il se met à commettre de telles exactions contre les autres pirates que finalement, de révolte en révolte, l'utopie va disparaître.
Alors les flaflibustes aussi disparaissent. Les corsaires, on va les retrouver pendant la Révolution française et pendant l'Empire, et même d'ailleurs je crois jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands avaient des bateaux corsaires. En revanche, et puis ça a disparu aussi, en revanche les pirates, il en existe encore, Patrick Villiers.
Oui, alors les corsaires sont interdits par le traité de Paris de 1856, ce qui fait qu'après il y a une erreur de vocabulaire qui fait que ce qu'on appelle corsaire, c'est la stratégie corsaire, c'est-à-dire des navires de guerre qui attaquent des navires marchands. Les pirates, en revanche, ils existent et ils existeront toujours parce qu'il ne peut pas y avoir de Vendée sans receleur. Donc quand on attaque aujourd'hui un bateau de n'importe conteneur de 300 000 tonnes, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui achète la marchandise.
Merci Patrick Villiers. Je rappelle que vous êtes l'auteur de la préface et des notes de l'histoire des aventuriers flibustiers, un livre écrit au XVIIe siècle par Alexandre-Olivier Excommelin, publié aux presses de l'Université Paris-Sorbonne. À lire également dans la même maison d'édition « Les tyrans de la mer » de Sylvie Requémora et Sophie Linon-Chipon. Enfin, un livre magnifiquement illustré, « Chasseurs de trésors et autres flibustiers » d'Olivier et Patrick Poivre d'Arvor, publié aux éditions Place des Victoires. Vous avez pu entendre des extraits de quatre films, Le Trésor de Rackham le Rouge de Stéphane Bernasconi, disponible en DVD chez Citel Vidéo, Captain Blood de Raphaël Sabatini avec Errol Flynn et Olivia de Havilland, disponible en DVD chez Warner Bros, L'Aigle des Mers de Michael Curtis avec Errol Flynn en DVD chez Warner Home Video, enfin L'Île aux Pirates de Rennie Harling, disponible en DVD chez Studio Canal. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci Olivier Riotor, Olivier Leroux, Mathieu Ménossi, Claire Tesser, Camille Poux-Jalaguet et à notre réalisatrice Anne Kobilac.